Hey, bonjour tout le monde, content de vous retrouver dans ce beau dimanche matin. On a hâte de se revoir, on a hâte de se retrouver. J'ai hâte de vous prendre dans mes bras. Je commence à me dire que je vais peut-être m'acheter une combinaison s'il faut, mais j'ai hâte de vous prendre dans mes bras, de prendre des gens comme ça, puis d'être proches les uns des autres. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on puisse se retrouver. Puis quelle grâce de pouvoir être conduit dans la louange par la famille Vincent. C'est quand même un privilège qu'on a. Ces quatre-là vivent ensemble en confinement. Priez pour eux, s'il vous plaît. Mais plus sérieusement, c'est un privilège qu'on a. Hein? Ils vivent ensemble, donc ils peuvent venir nous servir ensemble dans la louange. Je pense qu'on est vraiment, vraiment choyés comme Église, vraiment bénis. Alors, ce matin, on poursuit notre série « Vivre l'Église autrement ». Puis on est en train d'apprendre à vivre les choses autrement. La semaine dernière, on a commencé à exposer Philippiens 2. On a parlé de l'humilité de Christ. La semaine dernière, on a vu que c'est l'humilité de Christ qui conduit son Église dans l'unité et dans le service, ce qui va nous permettre d'être attentifs les uns aux autres, prendre soin les uns des autres, être au service les uns des autres. C'est simplement qu'on est en train d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même. C'est ça qu'on est en train de faire en réalité. Alors ce matin, on va poursuivre ça, puis peut-être que vous avez déjà entendu le vieux proverbe qui dit « l'humilité précède la gloire ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Bien, ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible. C'est un proverbe dans la Bible qui dit ceci. « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » C'est dans Proverbe 15, verset 33, juste pour dire. Il y a des bonnes choses dans la Bible, même des bons proverbes comme ça. C'est un bon livre à découvrir. Mais Jésus lui-même, Christ lui-même, est comme l'incarnation par excellence de l'humilité et de l'humilité qui conduit ensuite à la gloire. Alors oui, il existait avant d'être Jésus, il était Dieu le Fils, on y revient dans un instant. Il était déjà dans la gloire, mais il y a une gloire nouvelle, il y a quelque chose d'exaltant qui a été exalté par Dieu dans cette humilité qu'il a manifestée à la croix. Et donc Christ est vraiment l'incarnation de ce proverbe-là par excellence, puis on veut apprendre de lui. On veut être inspiré par lui, mais on veut aussi fixer les regards sur lui puis l'exalter à notre tour parce que Dieu, le Père, a exalté son Fils. C'est ça qu'on veut faire en Église ce matin. On veut l'exalter, on veut le célébrer par nos vies, par nos louanges, par nos comportements les uns envers les autres puis avec le monde extérieur, nous voulons élever le nom de Jésus-Christ. Alors allons dans la prière, on va écouter la lecture des Écritures puis on va plonger à nouveau dans ce beau passage de Philippiens 2. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on est assemblés d'une manière nouvelle à travers la web diffusion, mais on est assemblés. Toi, tu es bien présent avec chacun de nos cœurs. Tu es présent avec nous. On est réunis en esprit par ton Esprit Saint, Seigneur. Puis on est là pour te célébrer. On est là pour élever ton nom. Nous voulons voir ta majesté, Jésus, pour te célébrer, pour t'adorer, pour te glorifier, mais aussi pour être transformé par ta majesté, transformé par ta gloire, Seigneur, que de te découvrir, de commencer à t'adorer, vienne nous transformer intérieurement et qu'on puisse, Seigneur, entrer dans ton service en étant inspiré par toi, transformé par toi. Alors, viens nous parler dans nos foyers, dans nos maisons, là où on est, chacun d'entre nous, Seigneur, viens nous rencontrer pour faire de nous des adorateurs, faire de nous des serviteurs. Et comme on va le voir ce matin, Seigneur, viens nous apprendre aussi à être des missionnaires, à porter le message de ta gloire aux hommes autour de nous qui ont vraiment besoin d'entendre ce message d'espoir, de consolation que tu nous as apporté. Parle-nous par ta parole ce matin, Seigneur. On est disponible, on écoute. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
Bonjour. Alors, encore ce matin, le passage se trouve dans Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. Philippiens 2, 1 à 16. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain.
La semaine dernière, on a commencé à parler de l'humilité de Jésus-Christ et de ce que ça avait comme impact dans nos relations les uns avec les autres. On est appelé à être au service les uns des autres. Jésus est notre modèle d'humilité. Il s'est fait serviteur, même jusqu'à prendre nos péchés sur la croix. Au verset 7 et 8, voici ce qu'on lit. « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Et il a paru comme un vrai homme. En devenant un être humain, Dieu le Fils s'est humilié. Il est devenu une créature. Il est devenu comme ses créatures. Il est devenu l'un des nôtres véritablement. Maintenant, Paul nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et donc, il est devenu un mortel. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est qu'il est mort sur la croix. Et la mort sur la croix était la mort d'un criminel. C'était la mort des plus grands coupables. Et c'est un symbole qui est présenté là parce que Christ a été fait péché à notre place. Il a pris sur lui nos péchés. Paul dit non seulement qu'il a pris nos péchés, mais il a été fait péché sans jamais avoir péché. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé avec Jésus à ce moment-là. Il a été identifié devant Dieu, mais devant les hommes, à cette idée d'être un pécheur. Lui qui était le remède à nos fautes, à nos péchés, a été identifié avec la maladie elle-même. Littéralement, c'est ce qui s'est passé. Les gens qui l'ont vu sur la croix ont vraiment cru qu'il était maudit de Dieu. Parce que dans un sens, il a été maudit de Dieu au moment où il a pris nos péchés. Et donc, le remède est associé avec la maladie. Puis laissez-moi l'illustrer avec une histoire assez triste, choquante même, mais ça nous fait réfléchir, puis ça va nous amener plus loin dans le texte. En Europe, ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont dans la crise. On sent qu'il y a une fatigue, il y a beaucoup de détresse qui est là. Il y a des comportements, honteux ou douteux qui commencent à se manifester parfois dans la population. Et on lisait cette semaine qu'à Bruxelles, par exemple, le personnel soignant est parfois... je vais dire comme ça, ostracisés ou mis de côté, où on commence à s'éloigner d'eux parce qu'ils sont associés avec la maladie puisqu'ils sont exposés davantage. Puis un infirmier qui vivait avec des colocataires est revenu à son appartement et il a trouvé tous ses effets personnels à l'extérieur du logement avec la serrure changée. Et donc, il n'y a plus accès parce que pour eux, il fait partie du problème. Puis c'est choquant, honnêtement. C'est triste comme situation. Imaginez un instant, cet homme-là prend des risques, plus de risques que le reste de la population. Il est en train de prendre soin de nous, il est en train de se donner, il est en train de s'exposer lui-même. C'est son appel, c'est sa vocation à quelque part de faire ça. Et il y a une incompréhension, il y a un manque de charité, il y a un manque d'amour. Il est associé avec le problème lui-même, puis on le jette à l'extérieur du logement. J'aurais compris à la limite que ces colocs décident de s'en aller. Ils disent « Écoute, on va te faire de la bouffe pour un mois, on te laisse ça là, mais on pense que c'est risqué, c'est peut-être mieux qu'on s'isole, voici ton logement. » Non, ils l'ont « kické out ». Je m'excuse l'anglicisme. Ils l'ont mis à la porte. Et ça, c'est honteux. Honnêtement, c'est choquant, c'est triste, c'est pathétique. J'aime ce qu'on voit à date dans la société ici. on cherche à honorer. Je pense que là-bas aussi, les gens en général doivent chercher à honorer. On cherche à honorer, au contraire, ceux qui se sacrifient pour nous. On ne veut pas les associer avec le problème. Ils font partie de la solution. Et donc, on cherche à les honorer, à les remercier, à les louanger. Bien, c'est ce que Dieu fait dans ce passage-là. Dieu vient exalter son Fils en raison de ce qu'il a fait. Oui, il a pris nos péchés. Oui, il a été maudit en raison de nos péchés, mais il est le remède. Il est la solution. Et donc, Dieu va l'exalter. Dieu va l'élever. Après qu'il se soit humilié, Dieu va l'élever. Et c'est ce qu'on veut faire ensemble en Église ce matin. C'est ce qu'on veut faire à travers nos vies. On ne veut pas identifier Jésus avec le problème. On veut l'identifier avec la solution. On veut l'exalter dans nos cœurs. On veut chanter des louanges. On veut le porter en nous. On veut parler de lui. On veut le faire connaître parce qu'il est glorieux, parce qu'il est majestueux. Voici comment je résumerais l'exposé de ce matin. Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a été élevé par Dieu au plus grand des honneurs. Adorons-le, servons comme lui, brillons pour lui. Notre Seigneur Jésus-Christ, je le répète, a été élevé par Dieu au plus grand des honneurs. Adorons-le, servons comme lui, brillons pour lui. On lit dans les versets 9 à 11, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Premièrement, adorer Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu a élevé Jésus au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Puis je veux attirer votre attention sur un détail qui n'est pas un détail. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, premièrement, juste quelque chose qui apparaît un petit peu moins dans notre texte en français, mais qui est là dans le grec, puis qui nous parle de ce qui est en train de se passer ici. Dans ma traduction de la Bible, dans l'édition de Genève, c'est écrit « Dieu l'a souverainement élevé ». Souverainement élevé, dans le grec, c'est un seul mot qu'on a là. Et puis, donc, il y a le mot « exalté », c'est la notion d'exalté. Il est élevé, il est exalté, il est célébré, mais c'est un seul mot avec un préfixe qui est « hyper » ou « hyper ». Donc, il a été hyper exalté. Non seulement Christ a été exalté, mais il a été hyper exalté par Dieu, d'où l'idée qu'il a été placé au-dessus de tout nom. Il a été élevé, il n'y a personne qui soit au-dessus de lui, sinon Dieu le Père. Et donc, tous les honneurs lui sont donnés. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout être vivant, il est placé au-dessus d'eux. Maintenant, un autre élément qui est intéressant, qui est touchant, qui est important de remarquer, c'est que le nom qui est élevé, c'est le nom de Jésus. Jésus, l'homme. Fait qu'on revient un peu en arrière dans le temps. Dans notre série, dans l'Évangile de Jean, on est en train de voir un peu plus la divinité de Christ, la divinité de cet être-là, cet homme-là. Jésus de Nazareth n'est pas seulement un homme, c'est Dieu le Fils fait homme. Alors, on recule dans le temps. Avant qu'il ne naisse comme un homme, Jésus de Nazareth, il existait déjà. Dans la Sainte Trinité, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils existe de toute éternité. Il était dans la gloire. Il avait déjà toute la gloire. Il était déjà honoré par les anges. Il était déjà célébré. Il était déjà glorieux. C'est Dieu. Jean nous dit, au commencement était la parole en parlant du Fils, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, il était là de toute éternité, il était déjà célébré, il était déjà exalté. Maintenant, il s'est fait homme, il est devenu l'un des nôtres, littéralement, il est devenu un être humain. Ce n'est pas simplement qu'il a pris une enveloppe, il est devenu un homme entièrement comme vous et moi, et il a adopté cette deuxième nature-là, sa nature humaine. Et on voit là toute la compassion de Dieu, le fait que Dieu veut s'identifier, Dieu veut s'associer avec l'être humain pour l'éternité. Christ garde sa nature humaine éternellement. Cette nouvelle nature-là fait partie de lui pour l'éternité. Dieu le Fils sera toujours Dieu le Fils homme. Et donc, c'est un des nôtres. Et ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus glorieux encore qui s'est passé dans cette humilité que Christ a eue de venir sur la terre. Lui qui avait déjà toute la gloire, il a quitté la gloire, il n'a pas vu comme une proie arrachée de garder cette gloire-là qu'il avait auprès du Père. Et dans cette humiliation-là, dans cette humilité-là, il y a quelque chose de glorieux qui s'est passé. Parce que c'est glorieux de s'humilier pour devenir un serviteur. Ça nous parle de la beauté, de la grandeur, de l'amour de Dieu qui l'ose s'humilier en devenant un homme jusqu'à mourir sur la croix et être fait péché à notre place. Tant et si bien que Jésus de Nazareth, Jésus l'homme, cet homme parfait sans péché, Dieu le Fils fait homme, le Père a décidé de l'élever, de l'exalter, d'une gloire nouvelle, d'une gloire particulière, parce que c'est ajouté à sa gloire éternelle cette idée qu'il s'était humilié pour nos péchés. Et Dieu l'a regardé puis a pris plaisir en lui. Il a dit, mais quelle œuvre merveilleuse tu fais, mon Fils, de te donner pour des êtres qui sont pécheurs, des êtres qui sont rebelles. Puis il y a quelque chose d'extrêmement réconfortant pour nous dans ça, dans le fait que Dieu a décidé de sceller une alliance éternelle avec les hommes. Les Écritures nous disent que Dieu a créé l'univers et que Dieu a créé l'être humain à son image, puis l'être humain s'est rebellé contre Dieu. On le voit encore aujourd'hui à travers tout. Si tu doutes du fait que l'être humain est pervers puis est pécheur, lis les nouvelles. Regarde ce qu'on est en train de faire. On est supposé juste d'être en train de s'entraider, puis il y a des gens qui cherchent des opportunités de faire de l'argent au dépit des autres. Il y a des gens qui ils vont envoyer du matériel qui n'est pas du monde. Il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes d'expressions du péché dans notre culture actuellement. Il y a même des colocataires qui pourraient mettre à la porte un infirmier qui est en train de se donner pour notre santé, d'accord? Donc, on est pécheur, on est pervers, on est noble d'un côté, puis tellement ignoble d'un autre côté. Et ce qu'on voit ici dans le passage, c'est que Dieu a décidé de faire une alliance éternelle avec l'être humain. Et l'expression parfaite de cette alliance-là est dans le fait que Dieu est devenu homme. Dieu le Fils est devenu homme. Et il s'est associé à nous. Puis si je veux rendre ça un peu plus concret pour vous, un jour, bientôt, avec une combinaison ou non, on va pouvoir commencer à se faire des accolades. Puis au Québec, c'est quelque chose d'important. Je ne peux pas parler pour toutes les cultures. Peut-être que dans d'autres cultures, c'est moins significatif. Mais pour nous, là, tu sais, juste se prendre dans les bras puis se faire une accolade, on languit après ça. On est tous en déficit affectif actuellement. On est tous en carence affective d'une manière ou d'une autre. Puis on attend juste ce moment-là, on va pouvoir se faire des accolades, se prendre dans les bras puis dire « Enfin, le monde, la terre tourne comme elle se doit. » Puis il y a cette affection-là qui est rétablie. Mais un jour, je peux espérer que Christ va me prendre dans ses bras, comme Jean était appuyé sur le sein de Jésus. C'est ça qui est dit dans l'Évangile. Hein? Il était appuyé sur Christ. Un jour, Christ glorifié, Jésus de Nazareth glorifié, va pouvoir me prendre dans ses bras. Les Écritures nous disent que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Il n'y a pas de plus grande intimité qu'une intimité entre un époux et une épouse. Et l'Église est l'épouse de Christ. Voyez-vous, dans ce passage-là, par le simple fait que Paul prend le temps de me dire que c'est le nom de Jésus qui est exalté. Jésus, c'est son humanité. C'est le nom de Jésus qui est exalté. Dieu nous dit, je fais une alliance avec vous, les amis. J'ai pris votre nature. Dieu, le Fils, est devenu homme. Et je viens me marier avec vous pour l'éternité. Dieu n'a pas abandonné la terre. Dieu ne nous a pas abandonnés avec la pandémie qu'il y a là. Au contraire, il a scellé une alliance éternelle avec nous dans laquelle on peut entrer librement. On peut entrer en communion avec lui. Et je t'invite, si tu n'as pas déjà scellé cette alliance-là avec Christ, si tu n'as pas cru dans ce sacrifice-là sur la croix, viens croire en lui. Viens le confesser de ta bouche. C'est vraiment beau, c'est vraiment exaltant, c'est vraiment inspirant de voir ce que Christ a fait pour nous. Et Paul va plus loin, il nous dit, « Un jour, tous reconnaîtront notre Seigneur Jésus-Christ. » Regardez les versets 10 et 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Un jour, toute langue, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout être vivant, va confesser de sa bouche, va déclarer, va faire une profession, va dire que Jésus-Christ est Seigneur. Mon Seigneur Jésus. Mon Sauveur va être reconnu par tous comme le Seigneur de l'univers, un jour bientôt. Et Paul est en train de citer ici un passage de l'Ancien Testament qu'on trouve chez un prophète dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, quelques 700 ans avant la venue de Jésus. Les Saintes Écritures sont vraiment merveilleuses. Si tu ne connais pas ces choses-là, va les lire, c'est le temps. En confinement, lire les Écritures, why not? Mais dans Ésaïe 45, voici ce qu'on lit, parce que Paul est en train littéralement de citer Ésaïe 45 au verset 23. Puis là, je t'invite juste à porter attention pour identifier qui est en train de parler, qui prend la parole à travers le prophète Ésaïe, qui est le sujet ici. « Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Dans le prophète Ésaïe, c'est Dieu qui est en train de dire ça. C'est Dieu qui déclare ça. Dieu affirme qu'un jour, tout le monde va reconnaître qu'il est Dieu. Je vous donne le contexte. Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi, on va regarder les versets 21-22. On va donner un peu plus de contexte à ça. Ésaïe 45, versets 21 et 22. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Et je poursuis avec le verset 23, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » C'est Dieu qui est en train de parler. Et pourtant, Paul nous dit qu'un jour, tout genou, toute langue confessera le nom de Jésus. Voyez-vous, Jésus de Nazareth n'est pas seulement un homme. Il est vraiment Dieu fait homme. C'est l'Éternel qui est en train de parler dans Ésaïe 45. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Mais comment on fait pour être sauvés selon les Écritures? On se tourne vers Jésus-Christ. On va vers lui, vers la croix, là où il meurt et il prend mes péchés sur lui à la croix. On se tourne vers le Christ ressuscité d'entre les morts. Et puis on dit, « Seigneur, pardonne-moi mes péchés. » Mais ce qu'on ne réalise pas souvent, c'est qu'en se tournant vers Christ, on se tourne vers Dieu. Parce qu'il est Dieu le Fils, il est Dieu fait homme. Est-ce que ce n'est pas un passage exaltant? On voit la gloire de Jésus apparaître lorsqu'on réalise non seulement qu'il est Jésus de Nazareth, parfait, obéissant jusqu'à la mort de la croix, mais avant d'être Jésus de Nazareth, il était Dieu le Fils. Il est l'Éternel, il est le Seigneur qui déclare tout ça dans Ésaïe 45. Et nous, on a le privilège comme chrétiens de savoir ces choses-là. Nous, on a le privilège, dès aujourd'hui, à travers nos louanges, on va chanter des louanges dans quelques instants, à travers nos louanges, à travers nos prières le matin lorsque je me réveille, le soir lorsque je me couche, avant de prendre un repas, juste de célébrer Jésus. Puis de dire, Jésus, c'est toi. C'est toi qui es le Seigneur d'Ésaïe 45. C'est toi qui as vaincu la mort. C'est toi qui as vaincu le péché. C'est toi qui es exalté. Un jour, tout le monde va te reconnaître. Mais moi, je te reconnais déjà. Moi, je te connais déjà. Tu t'es fait connaître à moi. Moi, je peux déjà chanter tes louanges. Je peux déjà joindre ma voix à la voix des anges puis exalter ton nom, confesser ton nom. Je veux t'inviter dès aujourd'hui. Vois-tu ce privilège de pouvoir commencer à honorer Christ et à le célébrer, ça se décide de notre vivant. Les Écritures nous disent qu'il est donné à l'homme de vivre et de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc, c'est de mon vivant que je décide si je vais chanter des louanges. Un jour, tout être vivant va comparaître devant Dieu et tout le monde va reconnaître qu'il est Dieu. Mais tous ne seront pas réunis avec Dieu pour l'éternité. Ceux qui ne l'auront pas reconnu de leur vivant seront damnés pour l'éternité. Les Écritures sont super claires. Et je comprends que c'est difficile à accepter, cette idée d'un Dieu qui vient juger. Mais mets ce poids-là dans la mesure de ta conscience. Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort pour des pécheurs. Et ce n'est pas méprisable, c'est quelque chose à exalter, quelque chose à honorer. Dieu n'a pas envoyé son Fils simplement pour la forme, il l'a envoyé parce qu'on est vraiment pécheur et on a vraiment besoin d'être pardonné. Et c'est de notre vivant que cette décision-là se prend. Et donc, je t'invite à te joindre à la voix des anges et à te joindre à la voix de l'Église qui actuellement partout sur la terre, est en train de le célébrer. L'Église, à travers cette crise, à travers la souffrance qu'on est en train de vivre, est en train de célébrer Dieu. Malgré notre souffrance, plusieurs chrétiens vont être emportés par ça, on va souffrir. C'est notre lot, comme tous les hommes, et pourtant on chante ses louanges. Pourtant on le célèbre parce que nous croyons en lui, nous croyons qu'il est vivant. Et peut-être que Dieu est en train de te parler, peut-être que Dieu est en train de te faire entendre sa voix. On a commencé à voir dans l'Évangile de Jean cette idée que lorsque quelqu'un vient à Dieu, déjà, il a commencé à lui parler. Avant même que l'être humain réponde, déjà, il a commencé à lui parler. Et si Dieu t'appelle, écoute, c'est entre toi et Dieu, ça. Je peux pas te manipuler pour faire de toi un chrétien. Ça ne serait pas une vraie conversion. C'est quelque chose qui se passe de surnaturel dans une communion entre toi et Dieu. Mais je t'invite à considérer de joindre ta voix à la voix de l'Église et à commencer à confesser qu'il y a quelque chose de plus que la matière, il y a quelque chose de plus que les molécules, il y a quelque chose de plus que l'univers visible. Il y a un créateur derrière tout ça qui a conçu toute chose. Il y a un designer derrière tout ça et il s'est fait connaître à travers la personne de son Fils. Et il y a une grâce que tu peux recevoir de le connaître maintenant et joindre ta voix à nos voix. Maintenant je m'adresse à toi comme chrétien. Écoute, Christ est glorieux. Christ est merveilleux. Et lorsqu'on parle de confesser Jésus-Christ, un jour, on va joindre notre voix, on va l'entendre de nos oreilles à la voix de tous les anges et on va le célébrer. Mais déjà, les Écritures nous disent même que lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ, il y a une fête dans les cieux, les anges entrent en fête. Et donc, les anges sont déjà en train de le célébrer. Ils le voient glorifié. Dieu l'a élevé. Il est déjà hyper exalté dans les cieux. Et c'est ça qu'on veut porter dans nos cœurs comme Église. Des fois, on vit de l'inquiétude. Des fois, on vit de l'insécurité. Pendant la semaine, tu es là, puis tu écoutes les nouvelles. Mais va dans la louange. Va dans l'exaltation. Fixe les yeux sur Christ. Rappelle-toi, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a vaincu. Il est vivant. J'aimerais ça vous citer un autre passage pour simplement illustrer le fait que non seulement il règne sur tous les êtres vivants, puis un jour, toute langue vont le confesser. Les Écritures nous disent qu'il règne aussi sur la mort, par le fait même sur les virus. 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28. « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. » C'est la mort. Les virus. Un jour, il n'y aura plus de mort. Un jour, on n'aura plus à faire face à la mort, on n'aura plus à souffrir physiquement. Bientôt, Christ revient. Puis Paul poursuit en disant, « Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté, à l'exception de Dieu le Père. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. » Rappelez-vous dans le passage de ce matin, l'apôtre Paul nous dit que Christ a été exalté afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. On a accès à la relation d'amour, de soumission qu'il y a à l'intérieur de la Sainte Trinité. Christ vient, se soumet entièrement à son Père et le Père prend plaisir en lui et va donc l'élever pour sa propre gloire. C'est vraiment majestueux de voir ça et ce qu'on trouve là comme dynamique de soumission, d'obéissance, d'exaltation mutuelle. Le Père exalte le Fils, Il est hyper exalté à la gloire du Père parce que tout ce que le Fils fait, il le fait pour la gloire du Père. Cette mutualité-là, cette relation-là d'amour où on devient des serviteurs les uns des autres, c'est ce qu'on est appelé à incarner dans l'Église, dans nos relations à la maison. Comme chrétien, c'est l'attitude que je veux avoir. Je sais pourquoi je suis en train de servir, pas pour avoir la gloire, parce que je veux la gloire de mon Père céleste. Et comment est-ce que ça va se trouver? C'est si j'imite mon Seigneur Jésus qui lui-même s'est soumis. Et donc, je sais pourquoi je suis en train de faire ça. Peut-être que les gens vont regarder ça comme si, « Ah, écoute, il est tellement soumis, tout ça. » Oui, mais je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour glorifier mon Seigneur Jésus. Je veux l'imiter. Et donc, on est appelé tout simplement à exalter Christ. Et j'avais une belle illustration qui me venait ce matin, alors que j'étais en train de lire notre plan de lecture, ça m'a frappé. Je vais juste vous le citer rapidement parce que ça m'a touché de voir ça. Puis c'est un encouragement à ne pas étouffer ton désir d'exalter Christ. Dans 2 Samuel 6, on a une scène où le roi David fait entrer l'arche à Jérusalem. Puis David est vraiment pris dans son cœur. Il est emporté par la louange, par la célébration. Il est en train de célébrer Dieu. Puis écoutez, il se met à danser devant l'arche. C'est le roi, mais à ce moment-là, il n'est vraiment plus le roi à ses yeux. Il est en train de célébrer un roi plus grand. Et son épouse, Mica, le voit probablement du palais, puis elle voit qu'il est en train de danser comme un fou devant le peuple, devant l'arche, et elle a du mépris pour lui, parce qu'elle se dit « un roi n'a pas à faire ça ». Et voyez-vous, on voit la différence entre David, qui est complètement emporté par l'exaltation de Dieu, puis Mica qui est là, puis qui est peut-être en train de servir Dieu, mais sous le regard des hommes. Elle est en train de considérer, « Ouais, mais ça va de là, de quoi cette affaire-là? » Et ce n'est pas comme ça qu'on est appelé à servir Christ puis à l'exalter. On vient l'exalter, on vient le célébrer dans nos cœurs tous les jours. On le fait pour lui, on le fait pour sa gloire à lui. Peu importe ce que les gens pensent de moi, ça, ce n'est pas important. Ça, c'est très secondaire. Maintenant, ce passage-là, les versets 6 à 11, il y a une particularité ici, c'est un hymne, c'est un cantique. Ce n'est pas clair si Paul est en train de citer un hymne qui était déjà présent dans l'Église ou si c'est lui-même qui la compose à ce moment-là, mais dans la structure, la manière que c'est écrit, c'est comme si je tombais tout d'un coup dans une poésie de Victor Hugo, puis la structure est là, puis tu vois bien, OK, c'est un chant cette affaire-là. C'est un cantique que l'Église chantait ou peut-être que Paul est en train de leur présenter un nouveau cantique qu'ils sont appelés à chanter. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que c'est comme une espèce d'intermède qu'on a dans le texte. Paul commence Philippiens 2 en parlant à l'Église. Puis il dit à l'Église, vous êtes appelés à être des serviteurs. Vous êtes appelés à servir. Vous êtes appelés à être généreux. S'il y a un amour, s'il y a un sentiment, s'il y a quelque chose que Christ vous enseigne, ça devrait se refléter dans vos rapports les uns aux autres. Puis là, il part. Il dit, regardez Christ. Là, il part sur un cantique. Il se met à élever Christ en parlant de son humilité. Ensuite, en parlant de son exaltation. Puis lorsqu'il termine ça, il revient à l'Église. Là, il revient à l'Église et il dit, « OK, maintenant, vous comprenez? Vous comprenez notre modèle? Vous comprenez comment Dieu l'a élevé? Prenez ça en vous, portez ça en vous et devenez serviteurs les uns des autres. » Puis là, Paul va dire quelque chose de peut-être surprenant. On va essayer de l'expliquer au verset 12. Il va nous dire qu'on est appelé à faire fructifier notre salut. Regardez bien ça. Dans l'édition de Genève, voici comment c'est rendu. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, considérant la grandeur de Christ, considérant la grandeur de Dieu. Il y a quelque chose de grand qui est là, qui devrait vous inspirer à vraiment mettre tout votre cœur à ça, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, parce qu'on ne le fait pas pour plaire à Paul, on ne le fait pas pour plaire au pasteur, on ne le fait pas pour plaire aux hommes. Comme David, on le fait tout simplement pour plaire à Dieu, voyez-vous. J'aime bien la version dite du Semeur. Voici comment elle rend ce même verset-là, Philippiens 2:12. « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Faites fructifier votre salut. » Paul dit au verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Je veux aborder quelque chose de mystérieux dans l'Église, mais en même temps qu'on... Mystérieux dans les Écritures, mais en même temps qu'on a besoin de comprendre. j'ai besoin de grandir dans cette vérité-là. Paul dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, il dit, faites fructifier votre salut. Vous avez été sauvés, vous êtes devenus chrétiens. Il y a des fruits qui devraient sortir de ça. Il y a des comportements et des agissements. Il y a une vie transformée qui devrait résulter de ça. On devrait voir quelqu'un différent paraître. Mais il dit, c'est Dieu qui fait cette œuvre-là en vous. C'est Dieu qui vous donne le vouloir et le faire. Et donc, ce qu'on apprend dans les Écritures, c'est que si tu deviens chrétien, c'est que Dieu a initié quelque chose en toi. Il a commencé une danse avec toi. Il a initié une danse avec toi, puis toi, tu es appelé à suivre cette danse-là. C'est un tango que tu es en train de danser avec Dieu, puis tu es appelé à suivre, c'est lui qui dirige la danse. Et cette idée-là, cette vérité biblique-là, Paul a déjà commencé à la semer dans l'Épître aux Philippiens. Si on va au verset 6 du chapitre 1, Paul, c'est un des plus beaux encouragements qu'un chrétien peut donner à un autre chrétien. Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Il dit, « Écoute, peut-être que toi, tu as de la difficulté à voir ta croissance spirituelle. Peut-être que tu ne te vois pas grandir, mais moi, je sais que tu es chrétien. Et parce que je sais que tu es chrétien, parce que je sais que Dieu est fidèle, je sais qu'il va terminer ce qui a commencé en toi. Moi, j'ai la foi qu'il va terminer ce travail-là. » Quel encouragement à donner à un chrétien entre nous. Je sais que tu es chrétien. T'es peut-être découragé, mais il va continuer. Fait que lâche pas, parce que lui ne te lâchera pas. C'est vraiment touchant. Puis la semaine dernière, on avait vu un autre verset qui va dans le même sens. À la fin du chapitre 1, au verset 29, il va dire, « Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, mais encore de souffrir pour lui. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. » Donc, tu réalises, puis ça va être l'objet de notre méditation mardi soir lorsqu'on va être sur Facebook Live. Il nous a été fait la grâce de croire en lui. Tu réalises un moment que cette foi-là que tu as ne vient pas seulement de toi, c'est quelque chose que Dieu a initié en toi. Dieu a commencé un travail en toi. Dans Jean, on a commencé à voir ça dans la série dans Jean, mais il y a cette idée, Jésus va dire que ses brebis vont entendre sa voix et vont répondre à sa voix. Et si Dieu est en train de faire entendre sa voix dans ton cœur à travers ce qu'on est en train de vivre, à travers les messages, à travers ta parole, quelqu'un t'a parlé de ce que Jésus a fait, puis à quelque part, tout ceci prend de plus en plus sens dans ton esprit, puis tu dis, il me semble que c'est à ça que je dois adhérer. Ma foi est en train de grandir dans ça. Ma foi commence à grandir en la personne de Jésus-Christ. C'est une œuvre que l'Esprit de Dieu est en train d'initier en toi. Et comme chrétien, je sais que je suis un enfant de Dieu. Il a commencé cette œuvre-là en moi. Et moi, je suis appelé à collaborer avec cette œuvre de l'Esprit. Fait que c'est mystérieux. C'est quelque chose d'étrange, mais c'est quelque chose que je dois apprendre à entendre, à écouter. Je dois écouter lorsque je lis les Écritures, je dois écouter lorsqu'il se passe des choses dans ma journée, puis dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de former en moi? Parce que je veux collaborer, je veux mettre tous mes efforts pour travailler avec toi dans l'œuvre que tu es en train de faire en moi. Et donc, ma vie chrétienne est appelée à porter du fruit. Et dans le contexte de ce passage-là, le fruit qu'on est appelé à porter, c'est un fruit d'humilité, c'est un fruit de service. Un chrétien, avant de parler de Jésus, est déjà en train de parler beaucoup de Jésus par son style de vie. Un chrétien, avant de rendre explicite la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est déjà en train de témoigner de Jésus-Christ par son attitude de vie. Du moins, c'est ça qu'on cherche à faire, n'est-ce pas? Et on veut grandir en ça. Et donc, Paul va dire au verset 14 et 15, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. » En d'autres mots, là je vais dire un gros mot, Dieu est en train de nous dire, soyez dociles. Soyez dociles. Il me semble que c'est un beau compliment si quelqu'un vient te voir et il dit, toi, t'es vraiment quelqu'un de docile. Hein? C'est supposé d'être une vertu. C'est supposé d'être une qualité, mais dans notre culture, si quelqu'un venait te voir et disait, t'es vraiment quelqu'un de docile, toi. je pense que tu le prendrais comme une offense sur le coup. C'est comme, tu te fais faire imprimer un T-shirt, puis sur ton T-shirt, c'est écrit « docile ». Je sais pas, ça sonne drôle, hein? Puis pourtant, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Soyez obéissants. Obéissants à Dieu. Mais la manière que Dieu travaille, c'est que Dieu place des gens au-dessus de moi dans ma vie, des policiers, des autorités sur le pays, dans mon foyer, des parents. Dans l'Église, les pasteurs sont appelés à diriger. Il y a des structures d'autorité qui sont là. Et lorsque je collabore, lorsque je suis docile et obéissant avec ces structures d'autorité-là, je suis en train, en réalité, d'obéir à Dieu. Et c'est vrai, les chrétiens, il y a comme une limite, il y a un endroit si obéir à un homme veut dire que je désobéirai à Dieu, bien, je vais arrêter d'obéir aux hommes, je vais plutôt obéir à Dieu. On me dit, tu n'as plus le droit d'annoncer l'Évangile. Ici, là, au Canada, on n'est pas là, mais pas du tout, mais mettons qu'on nous dirait ça, plus le droit d'annoncer l'Évangile. Tough luck, mon homme. Moi, je vais être désobéissant. Mais lorsque le gouvernement te dit, écoute, la bonne chose à faire, c'est que tu rentres chez vous, là. Tu restes chez vous. Ouais, mais tu comprends pas, je vais perdre de l'argent. Je sais, mais c'est ça que tu dois faire. Puis tu laves tes mains. Mais tu laves tes mains, tu sais. Tu laves, c'est tout. Tu laves tes mains, c'est pas compliqué. Tu laves tes mains. Non, non, sans murmure d'hésitation. Sans murmure d'hésitation. Surtout quand je suis absent. C'est ça que Paul dit. Surtout quand je suis pas là pour regarder, parce que dans le fond, on fait ça. En anglais, j'aime bien l'expression, hein, je vous le répète de ce sens-ci, for an audience of one. On fait les choses sous le regard de Dieu. C'est pour Dieu qu'on le fait, nous, tout simplement, comme Christ l'a fait pour la gloire de son Père. Il l'a pas fait premièrement pour les hommes, il l'a fait pour son Père. Ensuite, il l'a fait pour notre salut. Je le fais premièrement pour Dieu. Je le fais parce que j'aime les gens, mais je le fais premièrement pour Dieu. Et donc, on veut être docile. Pense à ça un instant. Es-tu prêt à assumer ça? Parce que Christ a été docile. Il a été docile jusqu'à la mort de la croix. Puis les gens l'ont regardé puis ont dit « Quel être méprisable! » Regarde-le s'il est faible, il est sur la croix. Regarde-le, on pensait peut-être que c'était un grand prophète. Regarde-le, il meurt sur la croix. Alors qu'il est à son plus docile, il est à son plus fort. Il est à son plus glorieux, son plus majestueux. Parce qu'il le fait pour son Père. Parce que son Père sait ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu es prêt à assumer ça? Parce que c'est ce qu'on est appelé à assumer comme chrétien. Notre modèle à nous, c'est Jésus-Christ. Et en étant serviteur et humble, c'est là qu'il est à son plus glorieux. C'est là que son Père prend plaisir en lui. Et si je veux que mon Père prenne plaisir en moi, je vais accepter d'être un serviteur. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là dans le passage, mais déjà, ça en fait pas mal à intégrer. Alors qu'on vit ensemble, puis je parlais à un ami cette semaine, puis il dit, « Ouais, comment ça va vous autres à la maison, Esther, tout ça? Tu sais, vous êtes toujours ensemble. » Il dit, « Nous autres, c'est cette semaine. Ça a été un petit peu plus d'accrochage, un peu plus difficile, tu sais. Confinement, hein? À un moment donné, tu sais, quand tu as des pauses, puis tu peux sortir, je vais aller travailler, on se revoit ce soir, chérie. » Mais là, ça se passe tout à la maison, tu sais. Fait qu'on a déjà pas mal de choses à méditer juste avec cette notion-là de docilité, par exemple. Mais Paul nous dit quelque chose d'autre. Il nous dit « portant la parole de vie ». Il dit « cette génération parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ. » Portant la parole de vie, des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. C'est premièrement quelque chose que je vais porter en moi. Je vais l'incarner, je vais le vivre, je vais être un modèle, mais ça va briller. C'est quelque chose qui va paraître. Et ce n'est pas simplement un comportement qui va paraître. C'est clair dans le passage que, écoute, si tes bottines ne suivent pas tes babines, bien, tais-toi, peut-être. Peut-être c'est mieux. Tu sais, c'est supposé d'être concordant, cette affaire-là. Quand tu parles de Jésus, on est supposé voir un peu de Jésus en toi. C'est assez clair dans le passage. Mais ça ne va pas s'arrêter seulement à des comportements. Ça ne va pas s'arrêter à ça. Parce que ce qu'on va porter, c'est une parole de vie. C'est intéressant, il vient de dire qu'un jour, toutes langues vont confesser, avec leur bouche, vont dire la gloire de Christ. Et nous, l'Église, on connaît déjà la gloire de Jésus. On est déjà en train de le confesser dans nos louanges, dans nos cœurs. On est déjà en train de le confesser. On est déjà en train de dire combien il est glorieux. Mais ici, ce qu'il nous dit, c'est que cette parole de vie-là, on va la porter parmi cette génération. On va briller par nos attitudes et on va porter une parole de vie. Et quelle meilleure circonstance, n'est-ce pas, qu'un contexte où tout ce qu'on entend lorsqu'on ouvre les nouvelles, c'est parler de mort. C'est une parole de mort. Il y a une parole d'espoir. Un jour, on va sortir de ce tunnel-là. Cette pandémie-là va avoir une fin, puis on va recommencer à aller travailler. Puis je ne veux pas avoir un message de désespoir pour la culture maintenant. Non, tout ça va terminer. J'ai bon espoir, on va y arriver bientôt. Mais en même temps, quand tu rouvres les nouvelles, tout ce que tu vois, c'est quoi? Une parole de mort. On a des mauvaises nouvelles, il y a encore des décès. Et les gens ont besoin d'entendre une parole de vie. Une parole de vie qui n'a pas une portée seulement terrestre, puis temporelle, mais une parole de vie qui a une portée éternelle. Cette parole de vie-là, c'est que tu peux commencer à confesser, à déclarer la grandeur de Jésus maintenant. Maintenant, et te réconcilier avec Dieu maintenant. Commencer à l'exalter, à le célébrer avec les anges dans les cieux. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut annoncer Jésus-Christ. On veut le faire à nos enfants. On leur explique ce qui se passe, pourquoi ils sont à la maison, mais on le fait en leur parlant aussi de l'Évangile, en leur parlant de l'histoire des Écritures, puis de ce qui se passe sur la terre, puis du retour de Jésus. Un jour, bientôt, Jésus va revenir, la mort va s'arrêter. On veut le faire entre nous, entre chrétiens. On veut s'apporter cette parole de vie, on veut se rappeler l'Évangile, on veut se rappeler qu'il est vainqueur et qu'il revient bientôt. Ça va terminer un jour, ça, mais on veut apporter cette parole de vie-là à ceux qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. Et donc, je ne sais pas comment on va annoncer l'Évangile dans ce contexte-là. On apprend à vivre l'Église autrement, on apprend à annoncer l'Évangile autrement. J'ai des gens qui m'envoient des messages puis qui me disent « Ah, j'ai pris une marche au parc, j'ai vu quelqu'un qui est en train de faire une lecture, on s'est parlé de loin. » Puis j'ai dit « Ah, une première conversation spirituelle, on s'en va quelque part comme ça. » Et quelqu'un d'autre qui a partagé une publication, puis il y a eu des commentaires, puis ça rouvre une conversation. Je ne sais pas comment se faire. Peut-être tu vas appeler ta grand-maman. Puis en jasant avec ta grand-maman, tu vas lui dire « Écoute, qu'est-ce que tu dirais, grand-maman, si je te lisais un psaume? Tu vas voir, ça te ferait du bien. » Je vous l'ai dit, les enfants, vous avez un super pouvoir avec les personnes. Puis plus l'âge est éloigné, plus votre pouvoir va grandissant. Servez-vous de ça, ce beau pouvoir-là. Je ne sais pas comment. Le pasteur Jean-Pierre Gagné, on l'a mentionné tout à l'heure dans les annonces, le pasteur Jean-Pierre Gagné a pensé nous offrir une formation mardi soir avec Je suis deuxième puis avec Jean-François Moquin, qui est un vraiment inspirant. Et donc, vous pouvez vous joindre à nous, prendre cette formation-là. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que Dieu est en vous, travaille en vous, et je sais que si Dieu veut que j'annonce cette parole de vie-là à quelqu'un autour de moi, bien, c'est qu'il a déjà commencé une œuvre en lui. Je sais que si cette personne-là doit répondre à la parole de vie, c'est que Dieu est déjà en train de lui faire entendre sa voix. L'Esprit-Saint est déjà en train de parler à son cœur, parce que c'est comme ça que Dieu travaille, on vient de le voir. Et donc, mon rôle à moi, c'est de prêter voix à cette voix que l'Esprit a déjà commencé à faire entendre. Je viens prêter voix en expliquant l'Évangile, en annonçant la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ est venu faire. En terminant ce matin, on a parlé la semaine dernière de ces vocations que Dieu nous donne. Certains ont actuellement la vocation de prendre soin de nous à travers les personnels soignants, à travers les soins médicaux. D'autres, c'est à travers des services essentiels. Des fois, c'est en travaillant dans des épiceries. Les chrétiens, on a des vocations aussi. Une de nos vocations, c'est celle d'être adorateur. Nous sommes appelés à être des adorateurs parce que nous, on connaît Christ. On le connaît déjà maintenant. On est des adorateurs, puis on veut l'exalter, on veut le confesser, on veut le célébrer. Une autre vocation, c'est celle d'être serviteur. À l'image de Christ, nous sommes appelés à être serviteurs les uns des autres, avec docilité, sans murmure, sans hésitation, on devient des serviteurs. Et une troisième vocation, c'est celle d'être missionnaire, parce qu'on est appelé à porter cette parole de vie-là, dans notre foyer, auprès de nos voisins, autour de nous, la manière que Dieu va nous conduire. On est des serviteurs, on est des adorateurs, nous sommes des missionnaires. Puis Dieu va nous conduire dans ça. Faisons-lui confiance. Il règne, il est au contrôle, il est avec nous. Célébrons-le en louange ce matin. Exaltons-le. Faisons-lui confiance. Il va nous conduire à vivre l'Église autrement pour sa gloire. On va prier ensemble, puis on va poursuivre dans des chants de louange. Seigneur Jésus, on est assemblés en Église, en esprit, pour te célébrer. Seigneur, Tu es victorieux, tu as vaincu, Seigneur, le péché, tu as offert ta vie humblement sur la croix. Tu avais déjà toute la gloire, Dieu le Fils, auprès de ton Père, mais humblement, tu t'es venu prendre cette forme et t'es devenu humain. T'as fait alliance avec les hommes, une alliance éternelle. T'es devenu l'un des nôtres, Seigneur. Et nous reconnaissons que tu es exalté. Vraiment, tu es extraordinaire, Seigneur. Tu nous permets d'être réconciliés avec Dieu à travers les souffrances, les incertitudes. Je sais que je suis en paix avec Dieu à cause de ta mort sur la croix, de ta résurrection d'entre les morts. Et on veut te célébrer ce matin, Seigneur, à travers nos louanges. On veut chanter tes louanges. On veut t'élever, Seigneur. On veut proclamer combien tu es merveilleux. Seigneur, on veut aussi proclamer ta gloire en étant des serviteurs. Apprends-nous, Seigneur, à servir humblement, sans murmure ni hésitation. On veut te suivre, Seigneur, puis c'est pas facile. On a besoin que tu fasses cette œuvre-là en nous par ton Esprit Saint, Seigneur. Enfin, Seigneur, conduis-nous. Apprends-nous comment apporter cette parole de vie. Comment apporter cet espoir à des gens qui ne te connaissent pas. On te fait confiance pour nous conduire. Seigneur, toi, tu fais déjà entendre ta voix à des gens autour de nous. Conduis-nous simplement à prêter voix, Seigneur, et annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Conduis ton Église, Seigneur. Apprends-nous à vivre l'Église autrement. C'est dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.